Bonjour Daniel, bonjour à toutes les femmes. La journée des femmes, un seul jour dans l'année, ça me fait bien rigoler. Ici c'est Annie qui nage Corse à 25 km d'Ajaccio. Aujourd'hui je pense, et même tous les jours, à toutes les femmes du monde entier qui sont mes sœurs de douleur, mes sœurs de bonheur. Je pense à ma grand-mère qui a voté pour la première fois en 1945 en même temps que son fils, mon père, donc qui est toujours vivant, qui avait 21 ans à l'époque. Ça me fait bien marrer. Je pense à ma mère, morte à 37 ans, qui dans les années 60, d'après la loi, devait demander la permission à son époux pour pouvoir travailler ou avoir un compte en banque, qui ne pouvait pas bénéficier de la contraception, loi Neuwirth, en 1967. Enfin bref, à des tas de choses. Je me suis disputée d'ailleurs avec ma fille qui va avoir 28 ans, qui croit que tout est acquis. Je pense à toutes ces filles de toutes les couleurs, à Soane qui fut brûlée vive, aux filles de ni pute ni soumise. Il y en avait une, je me souviens plus de son prénom, je suis désolée, si belle avec ses cheveux frisés, qui avait écrit dans l'enfer des tourmentes et qui est morte d'un cancer foudroyant. Enfin bref, j'arrête là parce que mes propos risquent de paraître décousus. Qui a dit l'affirmation du droit des femmes a pour résultat de mettre tous les tyrans hors d'eux-mêmes? C'est un petit quiz là. Eh bien, c'est Alain, le philosophe, dans Propos impertinents, en 1909.
Bonjour, bonjour, oui, voilà, au sujet de la journée de la femme, on va encore nous gaver. Hein, une journée par an, ça suffit. Voilà, voilà, donc moi je suis handicapé, donc, et puis un jour j'ai dit à une dame qui se garait sur un emplacement pour handicapés, madame, est-ce que vous n'avez pas besoin de la place, étant donné que cette dame était valide. Donc cette dame m'a répondu, monsieur, je vous emmerde et je fais ce que je veux. Alors la journée de la femme, certaines femmes, d'accord, pas toutes, il y a quand même des connes, comme il y a des cons, d'accord. Il y a des racistes chez les femmes, donc je connais pas mal de femmes racistes, donc celle-ci non. Voyez, faut pas trop, hein, pas toutes dans le même sac. Il y a des cons, il y a des connes, d'accord. Faut pas tout mélanger. Alors mesdames, à partir de demain, tout en string, voilà. Ok, allez, venons-là toutes.
Journée de la femme, journée des femmes aujourd'hui, on a une superbe émission à vous faire réentendre l'origine du monde. Quel plus bel hommage pouvait-on rendre à nos mères, nos sœurs et nos compagnes en ce jour, l'origine du monde. D'où je vous cause? Je vous cause de Gardanne. Je suis à Gardanne. Il fait un temps superbe à Gardanne. Que fais-je à Gardanne? Eh bien, j'assiste à un hommage fait à une autre femme, à une femme très particulière qui s'appelle Leïla Chaïd. On est avec Leïla Chaïd, elle n'est pas seule. Leïla et ses deux rabbins, avec Dominique Vidal et Michel Warchavski, c'est eux les deux rabbins. Eh bien, ils rencontrent des jeunes dans les quartiers de Marseille, de Gardanne, d'Aubagne, d'Aix-en-Provence. Et on assiste à ces rencontres et à ces dialogues sur le Proche-Orient, sur les questions des quartiers, l'antisémitisme, etc., etc. Et c'est absolument passionnant. Fête des femmes aujourd'hui, célébration des femmes, une version un peu particulière de la fête des femmes, celle de notre ami Ben Ali. Oui, la version Ben Ali, notre ami Ben Ali, a une certaine façon de fêter les femmes. On va à Tunis rencontrer notre ami Radia Nasraoui.
Radia Nasraoui, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots?
Je suis avocate, je suis défenseur des droits de l'homme, et présidente de l'association de lutte contre la torture en Tunisie.
Alors Radia Nasraoui, je crois que vendredi dernier, vous avez eu des manifestations très violentes à Tunis.
Absolument. Les Tunisiens et Tunisiennes ont décidé de descendre dans les rues pour exprimer leur refus total de la visite de Sharon, qui a été invité par notre président à assister au mois de novembre au sommet mondial sur la société de l'information. La réaction de la police a été d'une sauvagerie sans pareil. Ils ont tabassé les militantes et les militants, mais j'ai senti personnellement que j'étais la cible, parce que les mêmes agents de la police politique qui m'avaient kidnappé le 8 juin dernier et qui m'avaient déjà agressé à plusieurs reprises, c'est eux qui étaient là et c'est eux qui avaient donné l'ordre aux brigades de l'ordre public de me tabasser. Et je peux même dire que ça a été, en tout cas pour les gens qui m'ont vu, une tentative d'assassinat.
Tentative d'assassinat?
Absolument.
C'est grave, ce que vous dites.
Absolument, parce que ils sont venus directement vers moi pour m'agresser sauvagement et peut-être bien pour me donner un coup fatal.
Vous êtes blessé? Vous avez été blessé?
J'ai une fracture au niveau du nez. J'ai un visage complètement défiguré. J'ai des bleus partout. J'ai des traces sur le dos. Je crois que ça aurait pu être encore plus grave. Heureusement qu'il y avait des militants sur les lieux qui m'avaient secouru.
Il y a eu d'autres manifestations hein, sur ce sujet à Tunis et en Tunisie.
Il y a des manifestations un peu partout, dans les régions du sud, dans le nord, dans la capitale, chez les étudiants, les syndicalistes, partout, les hommes et les femmes. Tout le monde participe à ces manifestations parce que tout le monde est contre la visite de Sharon en Tunisie.
Il y a aussi un autre avocat, je crois, qui a eu des problèmes. C'est Mohamed Abou.
Oui, Mohamed Abou est un jeune confrère qui a osé s'exprimer sur la question. Il a fait une comparaison entre Ben Ali et Sharon. Il a parlé des points communs en disant que tous les deux sont des militaires, que tous les deux répriment les populations et que tous les deux ont des familles qui sont corrompues. Il a également parlé des magistrats tunisiens qui envoient en prison tous ceux qui osent exprimer un point de vue différent, les magistrats qui condamnent tout le monde sur la base de dossiers vides en général. Il a essayé de donner son point de vue sur cette visite. Eh ben, lui s'est retrouvé en prison. Et même, il est privé de tous ses droits, il est privé de la visite de ses avocats. Nous n'avons pas pu le défendre le jour où il devait passer devant le juge d'instruction. C'est quelqu'un qui est carrément privé des droits dont peut bénéficier n'importe quel criminel de droit commun.
Pour en revenir à vous, Radiane Asraoui, aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Comment ça va se passer à Tunis? Est-ce que vous allez fêter les femmes, dont vous, par exemple?
Eh ben, en Tunisie, les femmes vont fêter cette journée à leur manière. Vous avez, par exemple, les avocates qui organisent une journée de deuil sur les femmes et les droits des femmes. Et le slogan des avocates va être « une égalité ». Effective et non des agressions physiques, non aux agressions physiques contre les femmes. Parce que malheureusement, les autorités tunisiennes essayent toujours de parler des droits des Tunisiennes qui sont garantis, qui ont été consolidés par Ben Ali. Eh ben, nous avons envie de dire que ça, c'est un gros mensonge, que les femmes sous Ben Ali sont les égales des hommes uniquement en matière de répression, uniquement en matière de torture. Pour tout le reste, les femmes sont privées de leurs droits.
Hier, j'ai entendu le gratin politique stigmatiser la répression policière turque au cours d'une manif pour le droit des femmes. Bah oui, c'est clair, ça se fait pas. Mais de là à dire que du coup la Turquie n'est pas digne de l'Europe, c'est ce qu'on appelle un raccourci, non? Surtout quand on sait que la répression violente n'est pas réservée à la Turquie. Si je me souviens bien, il y a des faucheurs par exemple qui en ont pris plein la tronche, des sans-papiers plein la tête, et bien d'autres manifestants qui pourraient témoigner sur la répression à la française. Mais là, le gratin politique ne juge pas très utile de mettre des mots dessus, hein, de poids, de mesure. Et puis finalement, si les chantres de l'Europe refusent l'entrée de la Turquie, peut-être que cette dernière échappera finalement aux contraintes de la belle zone néolibérale qu'on appelle Europe. Et puis si on suit la logique jusqu'au bout, les amis, eh ben on devrait refuser presque tous les pays, y compris la France. C'était Bobby, de Vienne.
Oui, Daniel. Ah, je suis enroué, là, j'ai la grippe. Je repense aux dernières émissions, le génocide du Rwanda, Bagdad, USA, la réélection de Bush, le mur de Sharon, les prisons et la Timone. toutes ces situations ont un point commun. Les hommes se comportent d'une façon incompréhensible, inexplicable. C'est ce juif hospitalisé racontant avoir pété les plombs en regardant les images de la Shoah à la TV qui me fait intervenir. Serait-il possible d'avoir une émission consacrée à l'information aliénante, à la propagande, ses effets psychologiques, ses effets sociopolitiques? Oui, je sais, c'est un sujet sensible, surveillé, censuré. Mais à la base, si j'y suis, tous les espoirs sont permis. Allez, salut.
Juste un petit appel pour remettre les choses un petit peu dans le droit chemin. Je suis en train d'écouter le 7-9, là. Stéphane Poli vient d'annoncer jeudi une grève des fonctionnaires. Il ne faudrait pas se tromper. Il y a un appel à la grève qui est fait en intersyndical, en interprofessionnel, c'est-à-dire toutes les grandes centrales syndicales appellent à la grève dans toutes les professions. Après, que les fonctionnaires soient plus nombreux dans la partie, effectivement, il y a des chances que ça soit comme ça parce que c'est habituellement comme ça. Que les gens se sentent plus protégés dans la fonction publique, mais je pense qu'il n'y aura pas que des fonctionnaires. Je pense que on a parlé ce matin des Nestlé, des Lustucru, il y en a dans toute la France des comme ça. Donc non, je dis c'est pas la grève des fonctionnaires, je dis c'est la grève des salariés qui vont protester par rapport au coup bas que nous ferait le gouvernement depuis quelque temps. Allez, là oui.
Il paraît que les manifestants parisiens du 10 mars veulent porter des casquettes et des t-shirts à la gloire des Jeux Olympiques. Eh ben, j'ai une suggestion à leur faire pour leur banderole. Du pain et des jeux. Salut.
Aujourd'hui, c'est le 351e jour que Madame Benedetta Berdica, réfugiée albanaise, et ses deux enfants sont maintenus en situation irrégulière par Monsieur le préfet des Vosges et Monsieur de Villepin, qui refusent de lui délivrer une carte de séjour en dépit des instructions formulées le 22 mars dernier par M. Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. Il apparaît nettement que Mme Berdica et ses enfants sont les victimes innocentes de luttes d'influence au sein de l'UMP. Tant qu'ils sont otages, nous le sommes aussi. Ne les oublions pas.
J'ai peur d'un baiser comme d'une abeille. Je souffre et je veille sans me reposer. J'ai peur d'un baiser. Pourtant j'aime Kate et ses yeux jolis. Elle est délicate, au long très pâli, oh que j'aime Kate. C'est Saint-Valentin, je dois et je n'ose lui dire au matin la terrible chose que Saint-Valentin. Elle m'est promise, fort heureusement, mais quelle entreprise que d'être un amant près d'une promise. J'ai peur d'un baiser comme d'une abeille, je souffre et je veille sans me reposer, j'ai peur d'un baiser.
Ça me gêne, l'arrêt des fesses, le marquage, il y a un certain nombre de choses qui sont tout à fait provocateurs et pas ni lyriques ni magiques. C'est fait, on a l'impression que c'est fait au téléobjectif, qu'il y a une volonté terrible de montrer l'arrêt du cul qui n'a aucun intérêt. C'est ghetto trou, la tendance ghetto trou.
Sophie, tu t'es déjà vue comme ça?
Je pense pas non. Sauf à se regarder dans une glace.
Pour la radio, Sophie, tu peux dire, c'est pas pour la
télé. On se reconnaîtra pas.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Laetitia Chérel. Là-bas, si j'y suis.
Flight number 2, arriving from.
C'est un peu pornographique, peut-être? Parce que les lèvres sont un peu écartées, c'est un peu obscène, mais c'est pas...
C'est toujours la même histoire, c'est la maman, la putain, quoi. C'est la mère et la femme, absolument.
Non, c'est fait pour montrer ce que ça montre, il n'y a pas de doute.
Ça me gêne souvent pas, je suis habitué à voir ma femme, pas tellement sous cet angle.
On a pris nos billets en même temps qu'eux, et ils ont dit qu'ils allaient voir la toile des Zizi.
Tout vient de là, nous on vient de là. Chaque être humain vient de là. On sort tous de ce...
J'ai assisté à 3 accouchements de ma femme, donc je suis pas du tout choqué. Non.
Je mettrai pas un poster de Tabata Cash dans mon salon, et ça je crois que je pourrais le mettre.
Trait de femme bien difficile à décrire. Voilà ce que disait Maxime Ducamp, l'ami de Flaubert, devant cette toile de Courbet, l'origine du monde. Comment décrire ce, entre guillemets, portrait, en effet. Comme un nez au milieu de la figure, dit
un visiteur. On est tout de suite exposé, dit un autre. C'est tout bêtement ça, dit une dame. Pour les uns, c'est l'apogée ou le point G, ce qui est un peu la même chose. Pour d'autres, c'est un morceau de viande immonde. La première représentation réaliste, au sens que ce mot avait à la fin du 19e siècle, représentation réaliste d'un sexe féminin. Parce que jusque-là, oui, le sexe féminin était représenté de manière stylisée, évoquée, outrée, lyrique, magique, comme disait ce visiteur, symbolisée, mais cette fois, c'est le dernier mot du réalisme, pour citer à nouveau Maxime Ducamp. Courbet peint ce qu'il faut cacher. Courbet croit au rôle civilisateur de la liberté, liberté du peintre, liberté de la pensée. Ça lui coûtera très cher, communard, il participera à la démolition de la colonne Vendôme et les Versaillais lui garderont un chien de leur chienne. Et voilà que cette toile est exposée au musée d'Orsay à Paris. Pendant quasiment 130 ans, elle a été cachée, dissimulée, et voilà qu'elle est enfin offerte au grand public que nous sommes censés constituer. Et voilà que cette peinture est en train de devenir une icône, une image pieuse, une seconde Joconde, un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, c'est quoi? Eh ben, c'est rien du tout. C'est une surface blanche où tous les fantasmes, méditations, réflexions, aborrations et adorations se projettent, se mêlent et partousent tous ensemble. C'est ça d'une part, et aussi un miroir où nous pouvons nous voir, nous considérer, où nous pouvons nous voir voyeurs, voyous et voyants. Et c'est quelques échos de ces regards, de ces propos que nous proposons aujourd'hui, qui révèlent peut-être quelque chose sur nous, nous aujourd'hui et nous de toujours.
Ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas son visage. J'aimerais bien savoir si elle est jolie ou pas. Bon, vous savez, non, c'est assez réaliste. C'est presque un tableau qui me fait penser à un étal de boucher. Enfin, je trouve pas ça très harmonieux. Je parle pas d'obscénité, mais simplement, il est un peu... Bon. Ce qu'on aime bien chez une femme, c'est la toucher, c'est la voir, c'est ne pas tout dévoiler d'un coup. Là, bon, c'est effectivement offert, il n'y a plus rien à faire. Hein. Ça manque un petit peu de discrétion et c'est pas du tout érotique, c'est placé là, c'est, je la verrai, je pense que je passerai mon chemin.
C'est quand même ce qu'il y a de plus important.
Mais très important, j'adore le sexe de la femme.
Ça fait longtemps moi que j'ai envie de le voir ce tableau, c'est la première fois que je le vois vraiment. J'aime beaucoup la vraie sensualité spontanée du tableau, quoi, tout simplement. Enfin, moi, elle me parle. Je trouve pas du tout que ça s'apparente à un acte de chirurgie, une décomposition par fragments du tout, comme ça. Et je trouve au contraire que Courbet, très délibérément, va à l'essentiel dedans. Et il y va frontalement. Le cadrage, tout ça, est fait pour éliminer, je crois, tout ce qui pourrait donner un prétexte à détourner l'attention.
Je trouve que dans le quotidien, on a une image de la femme qui est plus, qui me choque plus dans la rue, pour vendre de la lessive, pour vendre tout et n'importe quoi donc, et ça me choque plus que ça. Parce que là, on est près de la nature, on est près du vrai, on est près de la vie. Il dégage une force terrible, mais il la dégage aussi par la rareté du thème, et puis qu'on a osé l'afficher. Rien que ça, ça mérite d'être signalé, et ça vaut la peine, simplement parce qu'il est pendu dans un lieu public. Alors, c'est une des premières fois, mais pourvu que ça se renouvelle. Et pour vous, et pour nous.
Je n'aime pas
avoir ces petites grenouilles qui rôdent sous la pluie et qui parlent gascon. Avec une main prête à vous prendre les couilles. Sous une bouche en fleurs, prête à servir de con, prête à servir de con, prête à servir de con.
Au début, c'était très drôle parce que c'était surtout des hommes. Et il demandait ça avec un petit air cochon, quand même, il faut le dire. Et puis après, on a eu des couples. Là, c'était beaucoup plus drôle parce que c'était madame qui demandait. Et
C'était madame,
oui. Monsieur restait derrière. C'était assez drôle. Et après, alors il y a une confusion parce que visiblement, dans la presse américaine, ils en ont fait un tel battage. Ils demandaient l'exposition Courbet. Alors nous, c'est un peu des innocents. Il n'y a pas d'exposition Courbet. Mais on a eu tout, on a eu des sortes de ligues de vertu. Il y a une bonne sœur qui a dit qu'elle allait prier pour nous. Parce qu'au départ, même toujours, il y a des surveillants constamment devant le tableau, bien qu'il y ait une vitre blindée. Et la bonne sœur a dit que c'était une catastrophe de travailler là-dedans et qu'elle allait prier pour nous, parce que pour notre vertu, quoi. Non, bah, au début, on rigolait. Maintenant, on s'en lasse un peu, parce que c'est un peu banalisé. Mais au début, c'était très, très drôle. À la fin, on s'est mis à plaisanter. Ah, vous voulez voir la chose. Enfin, c'était bien, quoi.
Quel terme les gens utilise pour dire je veux voir.
Alors, soit ils disent on voudrait voir le Courbet, soit donc l'exposition Courbet, soit bon, ils disent l'origine du monde, oui, soit le. Ils disent pas trop, ils disent il n'y aurait pas chez vous un tableau. C'est très amusant, c'est pas. En fait, les gens sont pas libérés du tout malgré l'époque. Mais mon rêve, c'est qu'un type nous ait parlé de façon carrément vulgaire et grossière, dont je veux voir. Le truc, quoi. Enfin, ça aurait été drôle.
Ah, mais le truc. Le mot ne vient pas pour la chose à cette dame qui est à l'accueil au musée d'Orsay. L'histoire de cette toile est bien connue maintenant. Elle a été peinte en 1866, je le disais, cette petite, hein, 46/55, à la demande d'un diplomate turc qui s'appelait Khalil Bey, qui était un collectionneur et un connaisseur d'art et qui avait commandé cette peinture à Gustave Courbet, qui était dans sa gloire en 1866, et qui lui a donné cette peinture. C'était pas du tout un forçat, Courbet. C'était un homme libre. S'il a peint ça, c'est qu'il vraiment, il en avait l'envie. Et puis, alors, cette toile a toute une histoire qui mériterait un roman. Peut-être qu'il est fait, d'ailleurs, ce roman, j'en sais rien. Alors, elle arrive ensuite entre les mains d'un baron hongrois qui ensuite la revend. En tous les cas, on retrouve la toile chez Bernheim, le collectionneur, enfin, le marchand de tableaux, et bien, elle est planquée. Elle est planquée derrière sous une autre peinture et c'est fermé à clé dans un cadre. Et la peinture qui est devant représente quoi donc? Un château sous la neige. Voilà. Alors les obsédés textuels dont je fais un petit peu partie verront peut-être dans les tours de ce château enneigé quelque chose de phallique, mais Lacan, qui devient le propriétaire de cette toile, a-t-il vu des choses aussi vulgaires que nous? C'est pas sûr. En tous les cas, la toile lui appartient et son épouse voudra que on cache quelque chose, on cache le sexe de cette peinture, c'est-à-dire qu'on la dissimule presque entièrement. Et c'est Masson, le peintre Masson, qui va peindre un petit truc, un petit machin en bois, comme ça, qu'on va coller. Et puis, Lacan va être le propriétaire, l'heureux propriétaire, heureux, j'en sais rien, de cette peinture qui sera dissimulée dans son appartement. Puis, de temps en temps, il la montre à des visiteurs. Alors ça, la façon de... Il faut pas voir nécessairement de la pudibonderie dans cette façon de procéder. C'est peut-être au contraire une façon d'économiser le regard. Le regard use à trop montrer, et pas seulement cette merveille de Courbet, mais la peinture en général. Eh bien, il y a quelque chose qui s'use si les regards n'ont pas le désir qu'il faut. Si les regards ne sont pas habités, alors les choses s'usent. Et puis la peinture s'use elle-même, vous le savez. Comment, par exemple, les Degas d'Orsay, les pastels de Degas, par exemple, s'oxydent et se détruisent petit à petit dans l'indifférence à peu près
général. Donc voilà, voilà, et puis bon, bah héritage, Lacan meurt, héritage, et voilà comment cette toile arrive aujourd'hui à Orsay, sous les yeux, surpris, ébahi, enchanté, gêné, peu importe, des visiteurs que Laetitia a rencontrés, dont cette jeune japonaise.
I can't understand the meaning. Why did he painted it? Why? I don't know. I can't understand. It's too... Finished.
Il est évident qu'il ne sera jamais accepté, ce tableau pour Courbet. C'est... C'est quelque chose de trop qui va trop loin. C'est comme il suffit de voir avec l'Olympia, Manet a fait un scandale alors qu'il y a quand même elle est très très sobre cette jeune femme. Alors avec ça, vous imaginez ce que ça donne. C'est la suite quoi.
Quand vous dites ça, c'est quoi exactement?
Comment ça?
Ça?
Ça, la jeune femme qui montre ses fesses à tout vent, même pas ses fesses d'ailleurs, son sexe. Non, c'est. Je trouve qu'en plus il porte bien son nom. Ah, c'est une reconnaissance de la femme. En plus, elle est. C'est une façon de considérer la femme comme un objet esthétique, beau. Bon, ça peut... On a le droit de refuser ça.
Vous trouvez ça beau?
Bah moi, en tant que femme, oui. Mais je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais ouais. Ce que je lui reproche, évidemment, comme tout individu féminin, ce serait de lui avoir coupé la tête, parce que bon, c'est vrai que ça fait un drôle d'effet. Mais je crois que c'est là aussi que se situe l'humour, parce qu'il a... C'est une façon de prendre l'objet féminin à part, de dire la femme est une femme, bon d'accord, mais elle est un corps pour notre société, et de dire, bon bah puisqu'elle est un corps pour cette société, on va représenter le corps que c'est. Et il lui a coupé, il lui a enlevé toute humanisation dans le sens de penser, machin, etc. Il lui a enlevé ce qui fait d'une femme un être humain à part entière, avec une tête, des bras, des jambes, il a laissé que la partie sexuelle du corps.
C'est pas ça qui fait une femme?
Mais pas que quand même. On est un tout, non?
Bah, je le trouve assez réaliste, je suppose. Mais rien de plus. Je crois pas que ça soit un chef-d'œuvre, en effet, non?
Non.
Mais j'ai... Non, ça... Il n'y a pas une émotion particulière face à ce tableau.
Non, pourquoi? Non.
Parce que le réalisme est trop fort et il n'y a pas de, comment dirais-je, d'idée sous-tendue. C'est l'origine du monde, ben quoi, soit.
C'est pourtant une belle idée, l'idée d'origine du monde.
Je dirais que c'est vraiment une idée originelle,
oui.
Plus qu'originale.
Et alors, il ne vous déclenche aucune émotion alors qu'on est à l'origine du monde?
Non, pas sous cette forme-là. Je pense que ça aurait été traité d'une façon plus, comment dirais-je, avec plus de symboles, avec moins de réalisme. Je pense que ça aurait été mieux.
On ne peut pas montrer un sexe de femme comme ça?
On peut montrer, mais ce n'est pas un tableau.
C'est
pas un tableau. C'est une vue, c'est une photo, quasiment une photo, mais ce n'est pas un tableau.
Ça n'a pas l'air de vous mettre forcément à l'aise.
Ah, c'est bon, je ne suis pas à l'aise. Par contre, je ne veux pas perdre mon groupe. Complètement à l'aise.
Moi, je trouve que c'est une très belle toile. Oui, mais je vois vraiment pas ce qu'il peut y avoir de choquant là-dedans. Penser que le ministre de la Culture a refusé de faire son discours devant cette toile, en arrière-fond, moi je suis vraiment stupéfait. Il n'y a pas de quoi fouetter un choc.
Je n'aime pas avoir la belle bordelaise dont la bouche à moustache est un con malgré lui. Même quand elle suce, on dirait qu'elle baise. qu'elle a joui. On croit qu'elle a joui. On croit qu'elle a joui.
Pour tous les autres tableaux, c'est un vrai peu un
problème. J'avais complètement oublié, oui, qu'il était là.
Moi aussi, j'avais oublié.
Il y a le fameux tendu, oui, alors.
C'est la fixation qui a été faite parce qu'il y a les bégueules que ça gêne de voir une sorte de femme.
Je pense qu'effectivement, c'est parce que c'est un sexe et que ça gêne tout le monde, mais ça gêne plus ou moins, mais vraiment, honnêtement, pas moi en tous les cas.
C'est japonais peut-être, parce qu'il y a la pilosité, mais n'étant pas japonais, ça ne me choque pas de voir des poils de femme. Si, moi j'aime bien, monsieur. Oui, si le musée d'Orsay,
c'est bien. Je bien, il n'y a aucun problème. Salon, je le mets dans mon salon, je ne le mets pas dans ma chambre à coucher. Hein. J'ai même pas cette hypocrisie-là, comme de celui qui l'avait acheté. Mais bon, je suis très contente qu'il soit ici et qu'il puisse être vu par tout le monde.
Bien, il est bien,
et
en place, hein.
C'est comme ça, c'est très bien.
Il est très bien.
Et qu'on n'y touche pas trop, surtout. Il faut avouer que c'est pas. Pas on ne peut pas dire. À bien regarder, je vois pas l'intérêt, je vois aucun intérêt là-dedans.
C'est vrai.
C'est pas beau. On peut vous dire que ce soit beau.
Il y a un côté agressif, je trouve. Parce que c'est. On nous impose ça. En plus, il n'y a pas de visage. Et ça nous met en position de voyeur. Je crois que c'est ça. Voyeur, mais là, il y a trop de monde, on peut pas. Les gens, ils osent pas. Je suis sûr, les gens, ils osent pas regarder, ils n'osent pas s'approcher.
C'est impressionnant, quoi. Impressionnant. Même sur les tableaux les plus grands, on n'a pas de zoom comme ça, quoi.
Ouais. Mais c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu de cette façon-là?
Si, on peut. Ouais. Alors, je vais pas vous révéler ma vie intime, mais si, j'avais déjà vu ça. Ouais. Ça fait drôle de le voir sur un tableau. C'est comme les films porno. Hein. Quand on le voit de l'extérieur, ça fait pas la même chose, quoi.
On s'approche du tableau?
Ah ouais, il n'y a pas de problème. C'est pas désagréable. Ouais. Ça te dérange d'une façon pas désagréable du tout. Beaucoup d'émotions, ouais. Et de l'attrait, certainement. Ouais.
Vous avez envie d'aller le toucher?
Ouais, moi je trouve que dans les musées, bon, pas forcément les tableaux, mais à la limite les tableaux et surtout les sculptures, on devrait avoir le droit de les toucher, effectivement. Je suis assez particulier, mais je pense que si j'allais le toucher, je perdrais mes moyens. Là. c'est émouvant, c'est bien. C'est important.
Petit con, petit compliment à ma compagne et concubine à propos de ce comploteur, ce con cerné de mille odeurs qui chaque instant me turlupine. Con, si concis, si conciliant, mon complément, mon contenant, un con pareil est comparable au nid d'écailles, au coin du sable où convergent deux confluents. Ma compagne éparse, mon compas comparse, ce concret qui crie sur le tableau, noir, blanche autour, la nuit. Petit con, cierge, qui ruisselle, surmonté du très rebelle et très complice confetti, point rose sur le i du con promis. Concluant, qui sue sous l'ongle, le complot est à son comble, 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 l'eau combustible. Dans tes hanches, condensées, je coule dans ce compatible, tel concorde condamné. Je me complais de ta complainte, concerto que toi seul conduis, plus fort que le sabre et l'étui. Conclu à l'endroit, concombre à l'envers, con fort comme la mort. Petit Congo, dors, dors petit con, dors, petit Congo, dors, dors.
Tela mama kinzimbikini mwana Tela mama kinzimbikini mwana Busana.
Passer un peu de l'autre côté du miroir, c'est un petit peu ça aussi que nous invitait à faire la toile d'André Masson. Et voilà ce qu'on pouvait découvrir. Donc une fois qu'on avait soulevé d'une part le petit rideau, qu'on avait déplacé ce petit paysage de Courbet, ou bien qu'on avait déplacé la version de Masson, on découvrait ce qui n'est ni plus ni moins qu'un sexe de femme, parfaitement reproduit, dont on découvre tous les détails, tous les interstices. Bien sûr, vous imaginez sans problème la femme, mais on est également devant une image qui est complètement tronquée. Elle n'a pas de tête, elle n'a pas de bras, elle n'a pas de pieds. Donc c'est vraiment uniquement un sexe de femme dans son plus simple appareil. Alors là aussi, on sait que Courbet avait des intérêts aussi tout particuliers pour toute la photographie un petit peu pornographique de l'époque. Donc qu'il en avait vu et qu'il avait très certainement peut-être certaines de ses pièces dans sa collection, ce qui aurait pu expliquer effectivement le choix de ce sujet un peu sulfureux pour l'époque. Quoi qu'il en soit, voilà comment il imaginait lui aussi le début de toute notre histoire universelle. L'origine du monde, c'était quelque part finalement tout bêtement ça. Alors on pense qu'après il va retourner sur les cimaises du musée et qu'on le verra non pas avec tout ce stratagème. Peut-être que c'est dommage, parce que cette petite position de voyeur aussi était quand même assez amusante. On va passer.
De l'autre côté de quoi? De l'autre côté de l'hostie. Peut-être comme certains l'ont dit. Alors oui, le sexe sans tête de l'origine du monde, la toile de Courbet, c'est vrai que c'est le sexe d'une femme, le buste, le torse d'une femme, et qu'on ne voit pas sa tête. On pourrait répondre que c'est pour toutes les fois où on a présenté des têtes sans sexe, pour une fois le très généreux, le débordant de générosité, Courbet s'attache à représenter les femmes de cette façon, une femme, le sexe d'une femme de cette façon. Alors, on fait allusion ici aux photos coquines ou inconvenantes ou pornographiques, comme on voudra, qui commencent à cette époque-là à se répandre, bien évidemment. Mais il reste que cette toile est beaucoup plus subversive, on dirait, que n'importe quelle photo aujourd'hui même. Donc, il s'est passé quelque chose. Alors, on pourrait se dire que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que cette toile agite tant les esprits et de plus en plus aujourd'hui même? Eh bien, c'est parce qu'il y a la main du peintre, il y a le corps du peintre, il y a le corps de cette femme, il y a le sexe de cette femme, mais il y a la main et donc le corps du peintre. Et c'est ça que nous voyons à l'œuvre, qui est toujours en mouvement. La peinture, c'est comme le bois, ça travaille indéfiniment, et en l'occurrence, ça travaille nos esprits, ça travaille nos consciences, nos impressions. Il faut dire, à côté de cette présentation, il y a une toile de Gauguin très fameuse, le Christ jaune de Gauguin, avec le Christ jaune lui-même. Alors, malice ou non, ou hasard de la chronologie, de la muséographie, curieusement quand même, ces deux toiles se succèdent.
Et vous, monsieur, qui travaillez ici, qu'est-ce que vous en pensez du tableau?
Moi, c'est un tableau, personnellement, que j'apprécie beaucoup, parce que ça me fait penser à plein de choses telles que qu'est-ce que c'est qu'une mère, qu'est-ce que c'est que la valeur d'une mère. Et puis, quand on dit l'origine du monde, par exemple, l'origine du monde, ça, c'est un grand mot, comme on dit. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, automatiquement...
C'est-à-dire? Ça veut dire qu'on sort de là, quoi.
Oui, ça, c'est la mère du monde, quoi. C'est quelque chose presque réel. Je dirais pas tout à fait réel, mais il y a une part de vérité, quoi.
Donc, vous, ça vous fait plus penser à la maternité que au rapport homme-femme, quoi.
C'est le mot création qui attire beaucoup l'attention des gens. Et pourtant même, je me demande pourquoi Courbet a donné ce tableau ce nom. D'où l'idée lui est venue d'appeler ce tableau « Origine du monde ». Personnellement, je ne pourrais pas donner ça le nom « Origine du monde ». Mais vu qu'en ce moment, c'est son nom, j'apprécie le nom. Mais jamais je n'aurais pas pensé un jour de donner à ce tableau ce nom.
Et les autres tableaux, là, les grottes, c'est symbolique de quoi, à votre avis ?
Bon, en ce qui concerne ce tableau, bon, je pense que Courbet, lui, voulait comparer la grotte à le sexe d'une femme, quoi.
Et qu'est-ce que vous en pensez ?
Je ne suis pas tout à fait d'accord. Mon idée à moi, c'est de dire, bon, une grotte restera toujours une grotte et un sexe restera un sexe. C'est simplement ça.
Vous trouvez que ça n'a rien à voir ?
Pour moi, il n'y a rien à voir là-dedans. Moi, personnellement, je place chaque chose à leur place, quoi.
Je t'aime, toi, coucou, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, toi, coucou.
Vous dites que c'est nul.
Complètement.
Pourquoi ?
Il y a les deux faces du monde. Le christianisme, l'origine du monde. On est bien d'accord, c'est totalement opposé.
Parce qu'il y a le Christ jaune d'un côté et l'origine du monde dans l'autre salle.
Je trouve dommage de faire venir le Christ jaune de Bretagne. Là, on est très croyant, et puis montrer... un sexe de femme qui se disant représente l'origine du monde. C'est, j'appelle ça de la provocation. Sur l'éthique, sur la morale. Déjà rien que les couleurs, déjà. Une espèce d'ambiance malsaine. Ouais, c'est mon avis. Je pense pas qu'il soit bien éclairé. De toute façon, ils l'ont caché exprès.
C'est... Même, il y a une lumière bien,
ils l'ont caché exprès
bien fixée.
Ah oui, je pense. Hein,
il y a une
rapport
bien
où
bien
il était installé dans la salle courbée, où il était en pleine exposition. Là, on le met dans un petit endroit.
Oui, mais c'est justement.
Pour éviter je ne sais trop quoi.
Pour éviter quoi, à votre avis ?
Je pense plutôt au niveau. Dans la provocation, ils ont voulu se retirer un petit peu, sans trop provoquer.
Vous trouvez ça provoquant, vous, le tableau ?
Par rapport au Christ jaune, oui.
Vous êtes croyant ?
Oui.
Vous êtes breton ?
Oui.
Ah, voilà, nous y sommes.
On en arrive.
Ce qu'un tableau fait dire, des bêtises, eh ben pas tant que ça. Pas tant que ça. Si on reste près de cette toile, l'origine du monde, de Courbet, donc, eh ben il y a des choses passionnantes qui se disent et qui racontent énormément de choses sur nous. N'oublions jamais que la peinture est un art muet.
Il était là, je suis venu, j'avais vu des reproductions, des choses comme ça, j'en avais entendu parler, mais j'avais entendu parler du scandale.
Et là, vous adorez.
Je trouve ça sublime, sublime, magnifique. Tout magnifique, rien à en dire, quoi. Je ne peux pas vous dire pourquoi, c'est beau parce que c'est beau, quoi. Ça me touche. Et en plus, c'est ce sujet, moi je pense à ma copine, donc ça me plaît aussi de ce côté-là.
Pourquoi vous pensez à votre copine ?
Pour ça ? Vous n'avez pas de copain ?
Mais il n'est pas comme ça, mon copain. Et vous aimez le sexe des femmes ?
J'adore. J'adore. Enfin, le sexe de ma copine. C'est pas... c'est comme... quand on aime un enfant, si c'est son enfant, on n'est pas obligé d'aimer tous les enfants. J'ai eu un chien à une époque, j'aimais mon chien, et il pouvait me lécher tant qu'il voulait, mais je déteste que les chiens me lèchent, quoi. Vous voyez, c'est un truc comme ça. On peut acheter un bouquin, là, aller dans un sex shop, il y en a à longueur de truc, ça fait rien, quoi. Parce que là, il y a cette espèce de moment, quoi. Je me dis, Courbet, il a baisé la fille avant, quoi. Ou après, je sais pas, mais c'est sa copine, quoi.
Je vois que vous nous écoutez, monsieur. Oui, qu'est-ce que vous en pensez ?
Eh ben, peut-être qu'une femme, c'est toujours une partie de femme, peut-être. Il n'y a pas la femme en entier. Ça me paraît assez saisissant. Et qu'elle soit anonyme, peut-être. Est-ce qu'un homme aime une femme en entier ou quelque chose en partie ? C'est ça que je me demandais. On parle de la poitrine des femmes, des cheveux, de tas de choses. On n'a jamais dit qu'un sexe de femme était beau, je crois. C'est ça qui me paraît étonnant, quoi. Beaucoup de femmes m'ont dit, mais non, moi je trouve ça sans intérêt, c'est dégueulasse. Pas dégueulasse, mais il y a un genre de recul quand même. Hein. Du fait que c'est un tableau, ça fait peut-être autre chose, hein, après tout. Hein. Parce qu'il y avait une déesse qui montrait son sexe. Je crois qu'il y a eu une histoire avec Déméter dans l'Antiquité aussi. Il montrait son sexe et ça faisait rire. Là, je sais pas, j'entends pas les gens rire, donc...
Des ricanements de temps en temps.
À l'époque du Moyen-Âge, il y avait des sculptures qui représentaient une femme, jambes écartées, qui faisait fuir les démons.
Et moi, ça m'étonne, moi, ce tableau. Je ne sais pas pourquoi on reste.
En plus, elle est grassouillette quand même. Hein.
Elle est grassouillette. Elle est... Il y a de la chair. Hein. Il y a de la chair. On présenterait une anorexique comme ça, ce serait pas intéressant. Hein. Mm-hmm. Ouais.
Aujourd'hui, c'est pas tellement les canons des femmes. Hein. Les grassouillettes comme ça.
J'en sais rien. La chair, moi, enfin, pour ma part.
Soit grassouillette, non, je trouve qu'elle est, elle est exactement comme il faut, quoi. Vraiment bien.
Elle a des fesses,
comme ce qui, oui. Moi, j'aime pas tellement les filles maigres, donc.
Oui, on nous impose une photo de femmes qu'on voit, mais je ne sais pas si c'est une des femmes qu'on palpe. C'est peut-être pas pareil.
Il y a les femmes qu'on sort, et puis il y a les femmes à qui... Oui, il y a les femmes à montrer, et les femmes...
Qu'on apprécie, oui, c'est peut-être pas pareil. C'est l'usage de la femme, là, dont on parle, alors.
C'était l'origine du monde, un reportage de Laetitia Cherel. À la technique ce soir, Alain Stam et Olivier Daligo, réalisation Antoine Chao, assisté de Yann Chouquet et Pascal Pascariello, chef du répondeur Christophe Imbert. Si vous souhaitez réagir à cette émission, 01 56 40 37 37.
Le musée ferme ses portes. Les visiteurs sont priés de se diriger vers la sortie.